Alors,
Oui, je te prie.
bon après-midi, professeur Hakim. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Comme nous en discutions à l'instant, le thème de cette série d'entretiens, c'est l'histoire de la brisure de la symétrie des répliques en physique que nous bornons plus ou moins de 1975 à 1995.
D'accord.
Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, nous avons quelques questions préalables sur le contexte à vous poser. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire un peu plus à propos de vos jours avant de joindre l'ENS, par exemple, le contexte familial et le lycée auquel vous êtes allé,
Voilà.
quelle classe pré-prépa?
OK. Donc là, on vient dans la sociologie de la société française. Donc, le lycée, bon, j'étais dans un lycée parisien qui s'appelle Chaptal, mais pour les classes préparatoires, j'ai rejoint le lycée Louis-le-Grand. Et donc, voilà, au lycée Louis-le-Grand, bah, je suis entré à l'ENS par le concours maths, en fait.
Alors,
Et
qu'est-ce qui vous intéressait à la physique et à mes particuliers aux
donc,
mathématiques à cette époque-là?
typiquement, moi, ce qui m'intéressait, c'était la physique, la seule physique, en fait, enfin, où je savais bien qu'il y avait de la physique des liquides, la physique de la matière condensée, etc. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était la physique des hautes énergies. Donc, j'étais un petit peu fasciné par, je sais pas, l'unification, peut-être, des théories, enfin des théories des champs, de la gravité. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais ça me paraissait très, très intéressant de comprendre la structure de l'univers, etc.
Et ça,
Donc,
dès votre
non.
adolescence ou c'est venu?
Oui, enfin, disons, mon adolescence, plutôt la fin de mon adolescence. Donc, j'ai eu, en première, j'ai eu un prof de physique qui nous a parlé un peu de la relativité restreinte, donc les objets qui se raccourcissaient, le temps qui n'était pas exactement le même dans les différents référentiels. Et donc ça m'a un peu perturbé. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu. Enfin, et donc je me suis aperçu qu'il y avait toutes ces choses absolument, disons, un peu à la fois baroques et merveilleuses, inaccessibles par le sens commun. Ça m'a semblé très intéressant. Voilà. Et donc, bon, mon père, lui, était un biologiste, en fait, un médecin biologiste, et il m'avait abonné, quand j'étais peut-être en seconde ou en première, à ce qui s'appelait Scientific American, et qui était qu'en anglais à l'époque. Donc, moi, je lisais. J'essayais de lire un petit peu ces articles auxquels je ne comprenais pas grand-chose, à vrai dire, mais il y en avait qui m'intéressaient là-dedans. Donc, je me rappelle d'un article sur les cordes de Schwartz. Il y avait quelques articles. Et il y avait aussi, à vrai dire, des choses de biologie là-dedans qui m'avaient intéressé. Comment on fait un organisme à partir d'un œuf, pourquoi, comment. Les choses, tout ça me paraissait assez mystérieux, mais ça me paraissait intéressant. Et quand je suis entré à l'école normale, bon, je me suis dit, je vais faire de la physique théorique. Et on m'a dit, oh ben, ça va être très, très dur, tu sais, il n'y a pas de poste, etc. Et puis même Joseph Oesterle, pour pas le citer, m'a dit, la physique théorique, ça n'existe pas. Et donc, mais bon, j'ai quand même fait ça, et donc j'ai fait un DEA de physique théorique à l'époque, ça s'appelait DEA, pardon. Désolé, désolé. Oui, donc j'ai fait ce qui s'appelait à l'époque le DEA de physique théorique et j'ai commencé en fait à orcer à faire des théories de jauge sur réseau. Voilà.
Oui, qu'est-ce qui vous a attiré en particulier vers la théorie des champs et la mécanique statistique à cette époque-là?
Bon, donc moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout les interactions fortes, j'avoue. Et donc, quand j'ai donc très simplement, en fait, je voulais aller soit à l'école normale, soit à au service de physique théorique à Saclay, mais à cette époque-là, donc à l'école normale, donc tout ça c'est un peu sociologique, à l'école normale, donc c'était un labo quand même assez important, mais à l'époque, ils prenaient un seul étudiant par an, et même plutôt un tous les 2 ans. Donc ils avaient pris l'année précédente Marc Mézard, donc ils ont dit, bah, cette année, on prend personne. Voilà. Et puis donc à part ça, j'ai postulé donc au service de physique théorique à Saclay. Et là, on était deux, et après des très longues interviews, bon, les gens décidaient de prendre, de pas me prendre, mais plutôt prendre Jean-François Loger, qui était en DEA avec moi. Donc moi, j'ai été à Orsay avec Victor Alessandrini et André Kchibitski, qui, eux, commençaient à s'intéresser à la théorie, aux théories de jauge sur réseau, donc... commencer à travailler là-dessus. Et donc, en fait, effectivement, en travaillant sur les théories de jauge sur réseau, ben, j'ai appris aussi, enfin, j'ai ça un petit peu, mais j'ai appris un peu plus de mécanique statistique, etc.
Est-ce qu'il y avait des cours en
Et...
particulier au DEA qui sur le thème de la mécanique
Non.
statistique étaient
Ah oui,
mémorables?
les cours de mécanique statistique, il y avait un très bon cours, que moi j'aimais beaucoup, de Bernard Jancovici. Et il y avait aussi un cours de Jean-Pierre Hansen qui était pas mal, qui était la réponse linéaire, des choses comme ça, enfin. Et en particulier, Jean-Pierre Hansen avait fait quelque chose qui m'avait assez intéressé, qui était un petit peu la dérivation du théorème H pour des processus de Markov, des choses comme ça. Donc ça, c'était assez intéressant. Voilà, sans ça, il y avait des cours de théorie des champs qui étaient très élémentaire, plutôt champ libre, des choses comme ça. C'était ça ce qu'on faisait au niveau de physique théorique.
Et en parallèle de votre intérêt pour la physique des hautes énergies, vous aviez aussi un intérêt peut-être naissant pour la neurobiologie.
Alors ça, c'était un peu plus tard. Donc j'ai fait à l'époque, on faisait une thèse de troisième cycle. Donc j'ai fait cette thèse de troisième cycle sur les théories de jauge. J'ai aussi été au CERN à l'époque, en fait, un mois. Voilà, et puis, et effectivement, en 80, donc d'abord, en 82, j'ai été, quelque chose qui a joué un rôle important, à l'école de physique des Ouches, donc qui, en fait, là, m'a fait vraiment découvrir. Donc, moi, j'étais un physicien des hautes énergies, je ne connaissais pas grand-chose à la physique statistique qui se faisait moderne, disons. Et donc là, il y a effectivement eu, par exemple, un cours de Giorgio que j'avais trouvé très intéressant. Et donc là, où il expliquait le modèle d'Ising en champ aléatoire, bon, les théories le ver de spin, et en fait, où il avait expliqué à la fois la brisure de symétrie des répliques et même son interprétation, en fait, qui n'était pas encore publiée à cette époque-là. Donc ça m'avait paru aussi très intéressant. Et donc, il y avait aussi d'autres cours qui m'avaient plu. Là, il y avait un cours de FADF sur les systèmes intégrables qui m'avait beaucoup intéressé. Et donc, effectivement, en revenant de cette école des Ouches, là, j'ai commencé un petit peu à travailler en mécanique statistique, simplement parce que, comme je l'ai rencontré récemment à l'occasion du départ à la retraite de Jean-Pierre Nadal, j'avais rencontré Jean-Pierre. À cette école des Ouches, il y avait aussi Marc Mézard, Vincent Pasquier, d'autres gens. Mais donc, en particulier, Jean-Pierre Nadal avait fait un séminaire. Et donc là, il avait fait un travail sur les animaux, sur ce qui s'appelle les animaux dirigés, donc les amas, dans le plan qu'il avait dénombré avec Bernard, ou plutôt, avec Bernard Derrida, ils avaient trouvé une formule qui donnait le nombre, mais ils savaient vraiment la démontrer. Donc, et là, avec le cours de FADF, on a eu l'idée d'utiliser ces, je sais pas comment on dit en français, matrix product state. Bon, c'était là un peu une des premières fois, je pense, qu'on les utilisait hors du cadre intégrable et on avait pu dénombrer ces animaux dirigés. Mais donc, ça m'a fait connaître à la fois Jean-Pierre, bien sûr, un petit peu Bernard, mais pas beaucoup à l'époque, mais surtout Jean Vaniminus qui lui, m'avait dit, mais tu sais, il y a aussi tous les problèmes de... Enfin, il y avait aussi le papier de Witten et Sander qui étaient sortis à l'époque sur la diffusion limitée par l'agrégation. Et il m'avait dit, voilà, on ne comprend pas ça, est-ce que tu ne veux pas regarder? Bon, on avait... Donc j'avais commencé un petit peu à travailler sur ça. Voilà, et donc c'est vrai qu'en parallèle de ça, je ne sais pas, j'avais un peu le sentiment que la physique, c'était tout le monde faisait un peu la même chose, qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau finalement. Et donc j'avais suivi le DEA de neurobiologie ici. Et donc voilà, j'avais fait aussi un stage expérimental dans un labo qui était assez neuf en fait ici au département de biologie, le labo de Philippe Ascher. Et dans cela, donc j'avais appris effectivement de la biologie. Et dans ce labo, pendant que je faisais ce stage, il est sorti dans Nature un article de Francis Crick qui, sur le modèle de Hopfield, qui disait que les rêves étaient intéressants pour enlever les états spurieux dans le modèle de Hopfield. Donc moi, j'avais vu cet article, j'avais eu le cours de Giorgio sur les vers de spin. Donc ça m'avait paru assez intéressant, j'avoue. Et donc j'avais été voir Philippe Ascher avec le Nature en disant, donc j'avais été ressortir l'article de Hopfield que j'avais regardé, bon. Et donc j'avais été voir Philippe Ascher en disant, qu'est-ce que t'en penses? Donc Philippe Ascher, qui était le directeur du labo de neurobiologie, qui était un neurobiologiste très éminent, et qui m'a dit, bof, tu sais, c'est vraiment loin de ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'était assez loin, c'était des spins 1, eux, ils regardaient. Moi, et d'ailleurs, moi aussi, je plantais des électrodes dans les neurones, tout ça était un peu loin. Bon, bref, ça m'avait paru intéressant, mais voilà. Et puis en 83, je suis parti aux États-Unis pour un postdoc.
Je voudrais
Et.
vous ramener un petit peu avant, on va revenir
Ouais.
à Santa Barbara. Je veux savoir un peu quelle était votre impression. Vous avez parlé du cours de Giorgio Parisi à
Ouais.
l'Institut des Ouches. Quelle avait été la réception des gens? On comprend ça a laissé. C'était un enthousiasme ou c'était.
Ah oui, c'était tout le monde était très content. Enfin, je me rappelle, il y avait Bertrand Duplantier qui était là-bas aussi, qui lui avait refait le calcul de Giorgio. Bon, non, tout ça paraissait. Ça paraissait. Enfin, nous, on était très jeunes, donc ça, à vrai dire, ça ne nous paraissait pas si miraculeux que ça. Enfin, moi, ça me paraissait bien, disons, mais je me disais, bon, bah, ok, après tout, c'est une théorie de champ moyen, on maximise, bon, d'accord, il faut faire briser N, on ne comprend pas très bien ce qu'on fait, mais d'une certaine façon, ça nous apparaissait. Enfin, moi, ça me paraissait plutôt comme une sorte de performance technique qui était amusante, mais. Voilà. Disons, d'une certaine façon, j'avais trouvé ça très bien. Non, ce qui m'avait beaucoup impressionné, c'était Giorgio lui-même, j'avoue, plus que c'était la façon dont il faisait cours. On avait l'impression qu'il réfléchissait à chaque phrase qu'il disait, qu'il, d'une certaine façon, repensait à ce qu'il faisait pendant qu'il faisait le cours. Par exemple, je me rappelle. Pour des maximisations avec des paramètres de Lagrange, il réexpliquait pourquoi on mettait le paramètre de Lagrange, etc. Enfin bref, c'était une sorte de cours, on voyait qu'il pensait en même temps qu'il faisait le cours. Mais il y avait d'autres choses je me rappelle qu'il avait expliqué la réduction dimensionnelle et aussi pourquoi ça marchait pas. Et ça, c'était aussi un petit peu compliqué de comprendre pourquoi ça marchait pas. Enfin bon, il y avait beaucoup de choses dans ce cours. Qui était intéressante, mais non, non, il y avait, enfin, d'une certaine façon, je pense qu'on doutait beaucoup moins que tous les gens seniors, enfin, en tout cas, moi, je me rappelle pas que j'ai mis en doute que c'était pas une bonne solution, en fait. Ça me paraissait, voilà, et je pense que c'était un peu enfin, je sais pas, j'en ai pas discuté vraiment avec d'autres gens, mais j'avais l'impression que c'était un peu le sentiment de tous les gens assez jeunes.
Vous mentionniez que vous êtes parti pour la Californie, Santa
Ouais.
Barbara, en 83.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a amené
Alors là, franchement, c'est mon directeur de thèse, Victor Alessandrini, qui m'a dit, il faut que tu partes. Donc, j'ai dit, bon, s'il faut partir, je vais partir. Et puis, j'avais dit, bon, autant, si je vais aux États-Unis, j'aime autant aller en Californie que sur la côte Est. Bon, parce que la Californie, ça me faisait plus rêver que la côte Est. Donc, voilà. Et il m'a dit, ben, j'ai un copain qui. Donc, c'était Doug Scalapino. Ils viennent de monter cet institut. Ça m'a l'air bien. Tu vas aller là-bas. Et donc, il m'a dit, et puis, bon, tu travailles avec Frank Wilczek, ça sera bien. Donc, moi, je suis arrivé là-bas. Et en fait, bon, j'étais un peu intimidé d'aller voir Frank Wilczek ou les gens là-bas. Donc, en fait, j'ai commencé à discuter avec les postdocs avec qui je partageais mon bureau. Et il se trouvait que c'était Francisco Guinea, qui est quelqu'un de très bien. Et que, bon, à cette époque-là, il s'était mis à travailler parce qu'il allait avoir aussi un workshop après avec Tony Leggett sur la dissipation en mécanique quantique. Donc, je me suis dit, tiens, c'est amusant. Bon, ça, c'était un autre sujet qui me perturbait un petit peu, c'était la mesure en mécanique quantique. Donc, je me suis dit, bah, peut-être c'est l'occasion de comprendre réellement ce que c'est la mesure en mécanique quantique, et on a travaillé là-dessus, en fait. Donc, en fait, jamais travaillé avec Frank Wilczek, et je lui ai même pratiquement jamais parlé, je crois. Et j'ai jamais travaillé non plus avec quelqu'un qui me l'a reproché par la suite, enfin, gentiment, qui était Jim Langer. Parce que Jim Langer, il travaillait à ce moment-là sur la solidification avec des gens comme Gaby Cotillard, Nigel Godenfeld, etc., avec qui j'étais très copain. Et donc, ça aussi, ça m'avait un peu intéressé, l'équation KPP, etc. Mais bon, bref, moi, je travaillais sur la dissipation en mécanique quantique. Donc là-bas, je n'avais pas vraiment regardé ça. Et puis en plus, c'était lié à le truc qui m'avait commencé, m'avait un petit peu intéressé quand j'étais en France, qui était ce DLA. Donc j'avais quand même ça en tête, mais bon, là-bas, je n'ai pas travaillé du tout là-dessus. Et j'ai fait ça au retour en France. Et donc, quand j'ai rencontré Jim Langer après, il m'a dit, mais pourquoi tu n'as jamais travaillé avec moi quand tu étais à Santa Barbara? Voilà, mais bon.
Mais donc, c'était les premiers jours de l'Institut de physique théorique, ça, de ITP?
Ouais, c'était l'ITP, et donc c'était très sympathique. On était au sixième étage c'est pas le bâtiment qui existe maintenant, qui a été construit plus tard. On était au sixième étage d'un building qui s'appelait Ellison Hall, qui existe toujours. Et donc c'était beaucoup, il y avait deux couloirs c'était une architecture en T avec deux couloirs en T. Et donc il y avait une assez grande proximité entre les postdocs, les gens qui passaient, etc.
Et donc, votre passage à la mécanique statistique, alors si c'est pas en Californie, c'est donc au retour à Paris.
Alors voilà, c'est ça. Donc au retour, bon, je me suis dit, je ne vais pas aller à Orsay. Donc j'ai demandé à Jean, est-ce que je peux venir à l'école normale? Il m'a dit, oui, pas de problème. Donc je suis venu ici. Et là, en fait, bon, les gens s'intéressaient pas tellement, enfin, au moins dans ce groupe de mécanique statistique, les gens s'intéressaient pas tellement à ces problèmes de dissipation en mécanique quantique. Et donc, bon, j'étais un peu isolé sur cette histoire. Et par contre, donc là, c'était effectivement. Donc là, j'ai sorti, en fait, quand j'étais aux États-Unis. Donc Jean m'avait envoyé le papier de Marc qui est là avec une petite note en me disant Toulouse pense que la structure ultramétrique est intéressante pour les modèles de mémoire au fil Anderson et lui-même peut s'orienter dans cette direction. Voilà, donc il m'avait envoyé ces deux papiers, le PRL de Marc, enfin, sur des préprimes, quoi, les préprimes de l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'Internet, il m'avait envoyé ça par courrier, voilà, en me disant, c'est ça que tu dois faire. Cela dit, moi, j'avais trouvé ça, oui, ça, très bien, mais donc quand je suis revenu ici, effectivement, tout le monde s'intéressait à ça. Il y avait Marc qui était là, Bernard qui faisait son modèle REM et son GREM, etc. Donc ça parlait beaucoup de ça. Il y avait aussi toutes les choses de simulated annealing qui étaient de recuit simulé qui étaient là. Je me rappelle, j'avais programmé je sais pas, un jeu où il faut remettre les pièces avec le recuit simulé. Bref, voilà. Et donc, mais en fait, donc moi j'étais intéressé par cette histoire de DLA, de Diffusion Limited Aggregation, et donc j'ai commencé à regarder en fait la limite sans bruit, disons, d'une interface contrôlée par un champ laplacien. Et donc, bon, à cette époque-là, il y avait pas mal de. Bon, évidemment, il y avait le groupe de Jim Langer qui faisait ça à Santa Barbara. Et puis ici, il y avait Yves Pommeau. Et donc, j'ai commencé un petit peu à travailler avec Yves Pommeau et surtout avec Thierry Dombre. Je partageais le bureau de Thierry Dombre. En fait, Yves Pommeau, on l'a peut-être vu deux fois parce qu'il était parti aux États-Unis. Mais enfin, il nous avait laissé ce sujet en nous disant. Donc, le sujet, c'était de trouver comment, de comprendre analytiquement comment les formes étaient sélectionnées dans des problèmes de solidification ou d'hydrodynamique, comme le problème de Safman-Taylor. Et donc, Yves nous avait dit, je crois que la solution est dans une note du Landau, mais faites ça. Ce qui était vrai, hein, rétrospectivement, c'était tout à fait vrai. Mais bon, donc nous, ça nous a quand même pris un an pour essayer pour comprendre cette remarque d'Yves et en fait trouver cette solution. Mais donc en parallèle de ça, il y avait effectivement tous les gens qui faisaient des répliques, les brisaient, etc. Et moi, à cette époque-là, j'avais quand même refait, donc j'ai même retrouvé mon calcul, j'avais refait le calcul de Giorgio du. Ben enfin, le papier où il brise les répliques et il trouve une équation aux dérivées partielles pour trouver la solution. Donc, j'avais refait ce calcul-là, j'avais refait le calcul de Mars sur l'ultramétricité, etc. Mais voilà, j'ai rien fait du tout de tout ça.
Mais pouvez-vous nous
Mon
décrire?
idée, à vrai dire, mon idée, c'était d'essayer de trouver une solution un petit peu combinatoire. Donc, j'avais un petit peu réfléchi. En fait, un papier que j'avais trouvé. Il y avait bien sûr le papier de Bernard sur le modèle à énergie aléatoire, mais il y avait aussi le modèle le papier de David Gross et Marc qui redérivait ça. Et donc, ça m'avait paru quand même aussi très bien. Et je me demandais si on ne pouvait pas pousser un peu ces techniques pour avoir une solution un peu sans réplique, plus combinatoire, etc. Mais bon, j'avais réfléchi un peu, mais j'avais jamais réussi. Enfin, et puis j'avais pas vraiment fait ça assez sérieusement, donc j'avais pas vraiment obtenu de résultats très intéressants.
Pouvez-vous nous
Je me
décrire?
demandais dans les dans le, si dans le une approche microcanonique plus combinatoire, on ne pouvait pas redériver toutes ces choses. Mais bon, voilà.
Pouvez-vous nous décrire un peu la structure de la communauté de Mécastat à Paris à ce moment-là ou à l'ENS? Est-ce qu'il y avait des séminaires? Est-ce qu'il y avait des réunions de groupe? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'échanges ou c'était plutôt
Non, il
isolé?
n'y avait pas vraiment. Non, il y avait des séminaires. Oui, certainement, il y avait des séminaires. Mais des grands séminaires, en fait, où tout le monde allait. Par exemple, je me rappelle plus tard, il y avait eu. Je ne sais plus, c'était. Je pense que c'était David Hughes qui avait dû donner un séminaire sur leur approche avec un petit peu des gouttes pour les vers de spin, etc. Sans ça, non, on discutait plus. Donc, à cette époque-là, à vrai dire, moi, je discutais surtout avec Thierry Dombre parce que je n'étais pas vraiment encore dans, enfin, même pas spécialement dans, j'interagissais pas trop avec Bernard directement. Après, quand j'ai commencé à travailler avec Bernard, bon, là, il y avait Bernard qui débarquait dans mon bureau tous les jours, disons, mais sans ça.
Il n'y avait pas de groupe comme tel ou
Il y avait un groupe, il y avait un groupe, il y avait Gérard Toulouse, il y avait Jean Vanniminus, mais Gérard, il était plutôt dans. Quand j'avais déjeuné parfois avec Gérard Toulouse, mais bon, c'était plus les orientations, c'était pas vraiment. On ne faisait pas des calculs au jour le jour. Marc avait donné. Je me rappelle que Marc avait donné un cours sur les. Sur les vers de spin, sur les répliques, qui étaient très bien. Voilà, mais c'était.
En 86-87, vous êtes parti en sabbatique à
Ah
l'Unité de recherche
oui.
en génétique et pathologie moléculaire de l'INSERM.
Oui, donc ça, disons, peut-être, ces années étaient peut-être un peu compliquées pour moi. Donc effectivement, bon, je faisais ça. Donc on avait trouvé cette solution de. Du modèle de Safman-Taylor et de la solidification. Mais cela dit, j'avais toujours cette idée que la physique, c'était quand même un peu limité. Enfin, ou que ce n'était pas limité, mais qu'on était un peu dans un truc un peu limité. Donc, je m'étais dit, bon, il y avait cette histoire qui m'avait aussi intéressé de comment on fait un organisme. Et donc, et j'avais lu, peut-être dans Scientifique américain, je ne me rappelle plus, il y avait cette découverte qui était absolument fantastique sur la mouche de Nusslein Volard et Eric Vichaus, où ils trouvaient des tas de gènes et ça faisait des patterns. Et donc là, je m'étais dit quand même, c'est fantastique ce truc-là, il faut. Et puisque moi je travaillais un peu sur les formes, je m'étais dit, ça serait quand même bien que je comprenne la biologie moléculaire et que j'en fasse, après tout. Et donc j'avais, oui, j'avais été. Donc j'avais démarché pas mal de labos. Et puis j'étais tombé sur. Bon, il y avait un qui. Donc Axel Kahn était un ami de mon père et il avait accepté que j'aille dans son labo. Donc en fait, j'ai fait un an de biologie moléculaire dans le labo d'Axel Kahn et au bout d'un an, il fallait que je décide ce que j'allais faire. Et là, bon, j'ai consulté beaucoup de gens et puis je suis revenu vers la physique, mais un petit peu la mort dans l'âme, je l'avoue.
Parce que c'était vraiment de la biologie moléculaire, les mains
Ah
sur.
oui. Ah oui. Donc je faisais des manips en fait. Et
OK.
donc là, je suis tombé avec un type avec qui je suis toujours très ami, qui s'appelle Pascal Maire. Et je me suis rendu compte, bon, qu'il faisait des règles de trois. Et en plus, donc là, par contre, on a discuté 24 heures sur 24. Donc en fait, en une année, j'ai appris beaucoup, beaucoup de biologie moléculaire et de biologie en général, en fait. Et voilà, et donc ça n'a pas joué directement de rôle au début, mais ça a quand même été pour moi très important parce que ça m'a permis de comprendre ce que les gens faisaient en biologie, en fait, par la suite, en fait. Mais bon, ça n'a pas de rapport avec les répliques.
Il semblerait un peu qu'au début des années 80,
Ouais.
vous soyez intéressé à des idées liées à la pression de symétrie des répliques dans le cadre d'une analogie avec la DLA.
Alors, ça, c'était plus une idée de Bernard, j'avoue. Ça, c'était les années 90. Donc, oui, Bernard voulait qu'on avait essayé de calculer des recouvrements dans DLA, mais moi j'avoue que ça ne m'était pas. Bon, j'avais fait ça, hein, mais je trouve pas que ça. Se. Enfin, d'ailleurs, c'est un papier qui a zéro postérité, je pense, mais c'était pas très. Non, je ne crois pas que c'était très prometteur, en fait, cette voie. Non, non, enfin, il y avait. Bon, il y avait là. Il y avait. Giorgio aussi avait, à vrai dire, à travailler aussi sur DLA à cette époque-là. Donc, il avait fait un papier avec. Xicheng Zhang sur la correction en insulte. Il y avait un. Avec Jean Van Eemenus, on avait calculé des choses sur l'arbre de Béteux et Giorgio avait aussi fait ça et ils avaient calculé une correction en 1 sur D, mais qui n'était pas non plus très passionnante, en fait. Enfin, le problème, je crois, est resté un peu difficile, mais là, il n'y a pas eu de solution miracle comme avec les répliques.
Et quand on discutait l'autre jour, vous disiez avoir fait un calcul de réplique avec Bernard et Jean dans un.
Oui, donc Bernard a toujours été. Donc Bernard, par exemple, il avait réussi à calculer les corrections en 1 sur n, etc., avec son approche, etc. Mais l'approche, il avait assez envie de comprendre comment, bon, pour le modèle, disons, REM, comment on pouvait faire directement par les répliques. Et donc on avait regardé un petit peu des. Mais bon, on n'avait jamais été très loin, en fait. On s'était un peu perdu dans les maximisations et minimisations. Non, parce que bon, avec quand tu fais des n qui tendent vers zéro, après, c'est plus très clair comment maximiser, minimiser, etc. Des choses que vous savez beaucoup mieux que moi.
Dans un exposé que vous aviez donné pour le colloquium du département de physique en 2020, vous aviez dit que un des événements qui avait été clé dans votre accès aux neurosciences, c'était votre participation à un colloque organisé par Agnès Babloyan en 93.
Oui, ça tout à fait, donc effectivement, mais là, ça n'a pas de rapport du tout avec les répliques. En fait, donc on avait fait un calcul avec Wouter-Rappel, enfin lui il avait fait les simulations, moi j'avais fait le calcul, on avait regardé, donc l'idée c'était, ça c'était très influencé par Yves Pommeau, c'était cette idée que la turbulence c'est un problème compliqué, pas résolu, donc on avait regardé en fait, des oscillateurs en grande dimension, l'équation de Ginzburg-Landau en grande dimension, dans l'idée que peut-être en allant en grande dimension, ça simplifierait les choses. Et là, on avait trouvé une sorte de chaos collectif où chaque oscillateur fait quelque chose, mais la valeur moyenne fait un truc plus compliqué et chaotique. Et donc, bon, donc j'avais été invité, je ne sais pas pourquoi, à ce colloque. Enfin, cette conférence aux îles Canaries, à Lanzarote, par Agnès Babloyan. Et j'avais raconté ça. Et là, à la fin, il y a quelqu'un qui s'appelle Reinhard Descornes qui est venu me voir en me disant, ce que vous avez raconté, c'est bien. Moi, quand j'enregistre dans le cerveau, je vois que les neurones, ils font pas du tout. Donc, lui, il s'intéressait aux oscillations, aux rythmes cérébraux. Et il m'avait dit, quand j'enregistre, il y a des rythmes et les neurones eux-mêmes, ils sont pas du tout périodiques, etc. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ça? Alors j'avais dit, ben non, je ne veux pas, mais bon, ça m'était dit quand même, oui. Est-ce qu'on pourrait trouver un modèle de ça? Mais donc, j'avais pas de très bonnes idées. J'avais suggéré ça à un postdoc, justement, à Wouter-Rappel. Mais bon, on n'avait fait que des modèles avec de l'excitation. Donc, lui, il avait publié un papier. Mais enfin, moi, ça ne me satisfaisait pas. Donc, j'avais pas fait ça. Et puis après, quand Nicolas Brunel est revenu de son stage à Rome, enfin, son stage postdoctoral à Rome avec Daniel Amit, lui, il avait fait des simulations avec des modèles intégrés des charges, excitateurs, inhibiteurs, et il s'était aperçu avec Daniel Amit. Donc, eux, ils voulaient expliquer que les neurones déchargent un modèle où les neurones déchargés à bateau, ce qu'ils avaient réussi à faire en balançant l'excitation et l'inhibition. Mais là-dedans, il y avait des oscillations qui apparaissaient dans certains régimes de paramètres qui s'étaient. Qu'ils avaient bien mis de côté parce que ça les embêtait plutôt qu'autre chose. Et donc, quand Nicolas a montré ça, je me suis dit, mais c'est exactement ce que Reinhard Descornes m'a raconté. Et donc, j'ai dit à Nicolas, écoute, intéressons-nous à ces oscillations plutôt que les mettre de côté. Donc, c'est ça, en effet. Et donc, là, effectivement, avec Nicolas, disons, je rebasculais un petit peu vers les neurosciences.
On a parlé plutôt de la réaction de Philippe Ascher lorsque vous lui avez parlé du.
Ouais.
Est-ce que, selon vous, cette posture était représentative
Ah,
des.
complètement, complètement. Je pense que, enfin, le papier d'Hopfield, je pense que, en tout cas en France, sur les neurobiologistes, il avait zéro impact. Et dis donc, l'idée de Philippe, en fait, c'était que peut-être on peut passer directement. Disons, si on a une perspective où on veut, disons, guérir les maladies ou des choses comme ça, on peut se dire, et ce qui n'est peut-être pas faux, on peut passer directement du récepteur à la guérison. Si tu veux, en agissant avec une drogue sur un récepteur, peut-être ça va marcher. Il y a des tas de choses en médecine où on ne comprend pas toutes les étapes, mais on arrive quand même à aider les gens. Et donc, c'était plutôt ça, enfin. Mais à cette époque, bon, les gens travaillaient sur les canaux ioniques dans un seul neurone. Enfin, moi, ce que j'avais fait, j'avais mis des électrodes dans des neurones d'escargot et on essayait de regarder, bon, si on ajoute un petit truc, est-ce que ça le fait décharger plus, est-ce que ça le fait décharger moins? On n'avait pas du tout les moyens de faire, d'enregistrer plein de neurones à la fois.
À cette époque, il y avait beaucoup de, enfin, un certain nombre de groupes de discussion qui avaient été créés entre physiciens, statisticiens et puis neurobiologistes.
Il y avait, je sais pas, il y avait Gérard Toulouse, c'était donc quand il s'est intéressé au modèle de Hopfield et avec Jean-Pierre Nadal, ils ont été voir Jean-Pierre Changeux et donc ils ont écrit plusieurs, enfin, je crois qu'ils ont écrit Gérard peut-être, je ne sais pas combien il en a écrit, mais en tout cas, ils ont écrit un PNAS avec Jean-Pierre Changeux, puis Gérard s'est brouillé assez fortement avec Jean-Pierre Changeux, et Jean-Pierre a dû écrire un autre papier, et il y avait Stanislas Dehaene qui, à l'époque, était un étudiant de master. Donc, voilà. Mais disons, cette chose-là a mis un peu. Je pense que leur brouille, ça a un peu aussi coupé les ponts complètement entre la neurobiologie et la physique à cette époque-là. Enfin, Jean-Pierre Changeux, c'était quand même, disons, peut-être le neurobiologiste qui était le plus important en France, ou en tout cas à Paris.
C'était un conflit personnel ou au niveau scientifique, c'était
Je pense que, comme souvent avec Gérard, c'était au départ peut-être des conflits scientifiques, mais qui ont peut-être un peu dégénéré. Enfin, les deux, je pense, sont des fortes personnalités. Et donc, en fait, je crois que je ne sais pas très bien, parce que moi, j'y étais pas très bien, j'y étais pas, mais je pense que c'est plus que Jean-Pierre Changeux voulait soutenir sa théorie de sélection. Donc, il a toute une théorie de la formation des réseaux de neurones par sélection plutôt que par apprentissage. Et je pense que Gérard trouvait que c'était. Peut-être qu'il n'y avait pas matière à soutenir vraiment cette théorie. Ou, enfin, bref. Donc, mais après, je crois que ça a vraiment dégénéré.
Quand il y a eu les développements de Amit, Gudfreund et Sankolinski
Ouais.
autour du modèle d'Hopfield, est-ce que c'est quelque chose que vous suiviez malgré tout?
Oui. Donc oui, je crois que j'avais entendu aux ouches. Bon, je sais plus quand c'était, mais je pense que c'était Amit ou Sankolinski, je ne me rappelle plus très bien, qui avait expliqué ça à une conférence des ouches où j'étais. Donc ça m'avait semblé pas mal, mais pas, disons, pas spectaculaire non plus. Mais par contre, le truc de Gardner m'avait semblé beaucoup plus intéressant, en fait. Mais quand même, si tu veux, j'avais, enfin, personnellement, bon, il m'était peut-être resté un peu de ce que Philippe Ascher m'avait dit, et aussi moi, ce que je savais, si tu veux. Il y avait quand même une foule de physiciens qui ne savaient pas ce que c'était des neurones et qui s'en fichaient, à vrai dire. Si tu parlais à Bernard, le fait que des neurones existent, ils s'en fichaient complètement. Alors, c'était certainement pas vrai pour Gérard Toulouse, etc., mais leur connaissance de ce que c'était la neurobiologie était hyper limitée. Et donc moi, je partageais aussi un peu ce sentiment que, bon, c'était sympathique, le modèle de Hopfield, mais on était quand même assez loin du vrai cerveau, quoi.
Est-ce que vous avez interagi avec Elisabeth Gardner pendant son
Alors,
temps?
malheureusement, non. Bernard me l'avait présenté, mais elle était à Saclay, moi j'étais ici. Je pense qu'elle était aussi assez timide, Elisabeth, et puis moi, je... Non, en fait, non. Mais certainement, Bernard avait aussi une grande estime pour elle, ça c'est sûr.
De votre point de vue, est-ce que les vers de spin ont permis des progrès en neurosciences ou non? Est-ce que comme à cette
Alors,
époque-là?
à vrai dire, en neurosciences, non, ils n'ont pas permis de progrès. Alors, par contre, quelque chose ça a influencé très durablement un certain nombre de gens, et c'est vrai que l'approche attracteur, etc., enfin, finalement, est quelque chose d'important. Hein. Bon, d'abord, il y a eu tout des tas d'autres attracteurs beaucoup plus structurés, mais ça, c'était presque indépendant de Hopfield. Mais donc, il y a eu ce que les gens appellent le ring model, etc. Et puis, bon, les gens ont vu des attracteurs dans les réseaux de neurones, mais simplement cette idée que les mémoires sont peut-être des attracteurs, qu'on peut sauter d'un attracteur à l'autre, ça a certainement eu une grosse influence. À la fois, par exemple, Nicolas Brunel ou Micha Tsodik, c'est des choses très importantes pour eux. Et c'est vrai que c'est peut-être. Enfin, il y a eu des travaux après expérimentaux qui ont essayé de voir ça, bon, dans un cadre un peu plus élaboré que le modèle de Hopfield, mais bon, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est important. Et qui est peut-être. Bon, moi, il y a un papier que. Je trouve très très joli, qui est un papier de Micha Tsodik sur le système visuel, où en regardant, donc le système visuel, il est ordonné par des cartes d'orientation, etc. Et donc Micha Tsodik, avec Amiram Grinwald, ils ont fait une imagerie du cerveau du chat sans image, juste dans le cortex visuel, et là on voit. Par l'activité spontanée, on peut reconstituer tous les, enfin, les colonnes de direction, les préférences de direction des neurones. Donc, on a l'impression qu'ils sautent d'attracteur à attracteur, etc. Donc, enfin, moi, je trouve ça un papier très impressionnant, mais là, qui était disons, écrit en 1999 avec une version un peu plus élaborée en 2003, qui sont des papiers purement expérimentaux, mais qui sont vraiment très, très inspirés par cette image d'attracteur de Hopfield.
Vous disiez que le manque de techniques expérimentales pour enregistrer simultanément des grandes populations de neurones
Ouais.
à l'époque limitait peut-être l'interaction entre physique statistique et neurosciences. Est-ce que les progrès qui ont été faits depuis changent
Ah
la
ben, je pense que ça, à la
standard?
fois d'ailleurs, donc en neurosciences. Je pense que le paysage n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Disons, maintenant, enregistrer des canaux ioniques, c'est complètement hors de mode. Et donc, la plupart des labos, enfin, beaucoup de labos expérimentaux font des enregistrements in vivo et ils essayent d'enregistrer le plus de neurones possible. Donc, dans ces conditions, simplement pour analyser les données, il faut des méthodes déjà de traitement du signal un peu sophistiquées. Donc, ça commence avec, je sais pas moi, de l'analyse en composante principale, mais il y a des tas de raffinements de ça. Et donc, Simplement, même pour analyser les données, il faut avoir une approche un peu numérique, etc. Et donc maintenant, il y a une interaction absolument essentielle, en fait, entre les gens qui font des choses numériques, au moins des choses numériques, et les gens qui font des expériences. Simplement, même pour analyser les résultats expérimentaux. Et c'est aussi vrai, je dirais, un peu moins, mais ça commence à l'être vraiment aussi dans biologie du développement, où là, disons, à partir du moment où on dit que la signalisation est due à de la mécanique, etc., ça, il faut reconstruire les forces, reconstruire les contraintes, etc. Et même si on veut reconstruire le développement, même s'il n'y avait pas ça, si on voulait reconstruire le développement d'un organisme en regardant toutes les cellules, à ce moment-là aussi, il faut beaucoup d'analyses et de choses comme ça. Et on ne peut pas le faire simplement comme on faisait habituellement en biologie, qui était plus ou moins logique. Il était de se dire, j'ai A qui donne B, qui donne C, donc voilà.
Et les idées un peu, le développement des Hochfeld vers, disons, les idées, par exemple, d'attracteurs continus, un peu les travaux.
Ouais, ça c'est pas vraiment fini les
Est-ce que
attracteurs,
c'est,
mais oui,
je
vas-y.
dirais, est-ce que c'est quelque chose qui a eu un impact du côté des
Un impact
neurosciences ou qui
énorme,
peut en avoir?
énorme. Ben, donc là, si tu veux, tous les attracteurs continuent, donc ça maintenant on les voit. Donc, bon,
Pardon, mais je voulais dire les modèles. J'étais toujours un peu intéressé à l'interface entre neurosciences et physique statistique, donc je me demandais si les modèles d'attracteurs continus qui ont été développés du côté un peu Fistat, genre, je ne sais pas, les travaux de Rémy Masson ou de Sompolinski, etc. Bon, il y a plein de gens
voilà,
qui ont
c'est
fait
ça.
ça.
Donc,
Est-ce
ce
que c'est
que
quelque chose qui peut faire un peu un vrai pont entre les
ouais,
neurosciences
c'est
et
plus
la
qu'un vrai
Fistat
point
ou pas?
parce que, disons, ces modèles, donc, ils sont. Donc, la première chose que les gens ont vu, c'est des cellules de direction de la tête. Donc, ça a été vu par quelqu'un qui s'appelle Taobe dans les années 84, disons. Et où là, il y a des cellules chez le rat qui codent pour la direction de la tête, c'est-à-dire pas par rapport au corps, mais dans l'absolu, donc qui sont actives, un ensemble de cellules est actif quand la direction pointe dans une direction, un autre ensemble quand elle pointe dans une direction. Donc les gens ont commencé par faire des modèles à attracteurs, enfin, ou l'idée que c'était des populations différentes, et bon, donc on fait des modèles attracteurs. Donc, les premiers qui ont fait ça, c'est Jacques Droulez, Ke-Shen Tsang. Après, effectivement, Haïm Sopolinski a proposé son ring model, qui est un petit peu une version un peu plus tractable analytiquement, qui a exactement la même idée, mais qui est tractable plus analytiquement. Et donc, et ça a été aussi appliqué à ce que les gens appellent les cellules de lieu, où il y a des cellules qui déchargent quand la souris est à un certain endroit dans son environnement. Donc à 2D au lieu d'un D. Et donc ça déjà, c'est des choses que les gens voient. Donc il n'y avait aucune preuve que c'était un modèle attracteur jusqu'à ce que, disons, il y a peut-être, je sais pas, 6 ans, quelque chose comme ça, chez la mouche, on trouve une structure qui a une forme d'ellipsoïde, qui s'appelle l'ellipsoïde body, où on voit cet attracteur. C'est-à-dire que tu vois l'activité qui est sur cet anneau. Et en plus, chez la droson, on a de la connectomique, on sait comment sont les connexions. Donc, ça reconstitue tout à fait non seulement l'attracteur en anneau, mais même il y a une autre couche de cellules qui dit comment cette activité doit tourner quand la mouche tourne la tête, si tu veux, pour que ça fasse un truc de direction, il faut à la fois faire, quand la mouche tourne la tête, il faut faire tourner l'activité sur l'anneau. Et ça, il y avait un modèle qui avait été proposé par McNaughton, que moi je trouvais un peu alambiqué, un petit peu genre Ptolémée avec une autre couche de cellules qui fait tourner le truc, mais c'est ce qu'on voit dans la mouche. Et donc ça, maintenant, c'est complètement mainstream. Et là, par exemple, il y a Ruben Portugues qui a trouvé l'analogue chez le poisson, où il y a de nouveau une activité qu'on peut voir chez le poisson, puisque maintenant, chez le poisson, tu peux aussi faire de l'imagerie et voir l'activité des neurones. Donc ça, pas de doute que ça existe, en tout cas chez la mouche et chez le poisson. Chez la souris, on ne connaît pas encore la connectivité, mais je pense que beaucoup de gens pensent que c'est aussi le cas chez la souris. Non, non, il y a beaucoup de. Maintenant, il y a une très, très grande connexion, si tu veux. Si tu veux, même des choses. Tu vois, il y a ce papier de Sopolinski sur le chaos dans les réseaux récurrents. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est maintenant tout à fait. Enfin, ce que la vue maintenant, enfin, telle qu'elle est aujourd'hui, qui est peut-être un peu extrême, mais si tu prends les labos de neurobiologie qui font de la neurobiologie un peu des systèmes, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent ils essayent de mettre l'activité des neurones dans un espace de grande dimension. Chaque neurone a sa décharge et donc tu as un espace qui est aussi grand que le nombre de neurones que tu enregistres et tu regardes la trajectoire que fait l'activité de cette population quand tu fais quelque chose. Donc ça, c'est ce que les gens appellent une approche système dynamique, qui est effectivement le cas. Et là, l'idée, c'est que quand tu fais ça dans les expériences, tu t'aperçois que la dynamique est dans un sous-espace de petite dimension par rapport au nombre de neurones et comment tu utilises ça, etc. Donc là, on est en plein dans un système dans une approche de système dynamique avec des choses chaotiques et il faut comprendre comment tu peux utiliser ça. Mais donc là, c'est clair qu'on est en plein dans une interaction.
Pour venir sur les répliques, je crois que votre seule publication un peu avec un calcul de réplique dedans, c'est celle avec
Ah ouais.
Nicolas Brunel, Jean-Pierre Nadal et
Tout
puis.
à fait, tout à fait. Donc là, c'est. Donc, bon, on a fait ce calcul, en fait, à partir de résultats expérimentaux, parce que, bon, c'est là, quand on a commencé à collaborer vraiment avec les neurobiologistes ici. Donc, ce qu'ils avaient mesuré, c'est les forces synaptiques, donc les forces des synapses sur une cellule particulière du cervelet. Bon, c'est une cellule où il y a 100 000 synapses, donc ça permet de faire de la statistique, disons. Et donc, eux, ce qu'ils avaient vu, donc ils regardaient une synapse excitatrice et ils s'étaient aperçus, donc ils avaient mesuré, je crois, 600 connexions, ils s'étaient aperçus que 80% étaient des synapses qui pensaient exister, qui étaient à zéro. Et donc, on a commencé à discuter avec eux un petit peu par hasard, mais en tout cas, donc ils nous ont dit, David Marr a proposé que cette cellule agisse comme un perceptron. Est-ce que vous pourriez expliquer que ces cellules ont beaucoup de connexions à zéro? Donc là, effectivement, on a fait ce calcul assez simple, en fait. Pour voir quelle était la distribution des forces synaptiques d'un perceptron dont les synapses seraient toutes excitatrices et qui apprendrait jusqu'à sa capacité maximum. Et donc, quand on a fait ça, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un grand pic à zéro parce qu'il y a une contrainte à zéro et que quand tu veux changer des synapses, ben, tu peux pas les descendre en dessous de zéro. Donc voilà, donc on a fait ça et effectivement, ça reproduisait pas mal les résultats expérimentaux.
Vous avez parlé un peu des calculs de répliques que vous avez faits, mais est-ce que ça vous est arrivé d'enseigner les calculs de répliques ou de
Alors,
réseaux neuronaux
pas vraiment, non. Je me rappelle que Nicolas a fait un cours au Zoo, je pense, et où il a fait un cours sur les modèles à attracteurs, pas vraiment sur les modèles de réplique, et il m'avait dit. Donc, c'était une époque, quand même, le début des années 2000, où c'était vraiment pas le. C'était vraiment plus à la mode. Si vous regardez. Un livre, bon, qui est une sorte de livre de base, comme le livre de Diane et Abbott. Bon, Larry Abbott, c'est quelqu'un qui connaît ces choses-là, un petit peu en tout cas. Il n'y a pas une mention des réseaux attracteurs de Hofield dans ce livre qui s'appelle Theoretical Neuroscience. Pas une. Et donc, Nicolas, je crois, a fait ce cours en 2003 au Zouch et il avait fait ce cours. Sur les réseaux de Hofield et puis les développements de Zoddix, Feigelman, etc. Mais il l'avait fait en me disant, tu sais, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important mais c'était pas du tout disons, ce qui était à la mode. Et donc nous, on a enseigné pas mal les neurosciences computationnelles, mais en fait, on l'a enseigné à un public un peu interdisciplinaire qui allait des biologistes aux physiciens. Et donc, on n'est pas vraiment entré dans des calculs pour le modèle de Hopfield simplement parce que les étudiants n'étaient pas vraiment adaptés. Et effectivement, il y a des étudiants physiciens qui nous ont dit, mais on voudrait bien que vous nous expliquiez ça, etc. Mais non.
On approche la fin de notre entretien.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a des éléments ou des périodes ou des idées qu'on a négligées, que vous pensez qu'on devrait revisiter?
Non, je pense pas. Enfin, disons, je pense que dans cette histoire, les gens, donc il y a évidemment les neurosciences, mais par exemple, Giorgio, je me rappelle qu'il y avait une période où il s'intéressait à l'immunologie, donc c'est vrai que ça a essayé de partir un peu dans toutes les directions, chacun. Et disons que la physique statistique essayait d'envahir, ou essaye toujours d'ailleurs, d'envahir tous les domaines.
Finalement, avez-vous des notes, des papiers ou de la correspondance de cette époque? Et si oui, est-ce que vous avez un plan pour les déposer dans une archive académique éventuellement?
Non, j'ai pratiquement aucune correspondance. J'ai cette petite note de Jean, c'est tout. Moi, j'ai cette petite note de Jean, voilà, et ce préprint pourrait le déposer, mais je ne sais pas si ça, ou en tout cas en faire une photo si vous voulez. Voilà.
Certainement.
J'ai retrouvé par contre mes photocopies originales du papier de Jean, de très très mauvaise qualité. Voilà.
Professeur Hakim, merci beaucoup pour votre temps et pour cette discussion.
Je vous en prie.
Merci.